Bonjour Roland Lescure.
Bonjour Frédéric Rivière.
Le député La République En Marche, Laurent Pietraszewski, a donc été nommé secrétaire d'État chargé des retraites en remplacement de Jean-Paul Delevoye, contraint à la démission pour ses oublis dans sa déclaration d'intérêt. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Laurent Pietraszewski, qui, il faut bien l'admettre, n'est pas pour l'instant très connu?
Il n'est pas très connu à l'extérieur.
Il va l'être, ça, dans les prochains jours, on va le voir partout.
Je pense qu'il va l'être très rapidement. C'est un excellent choix. Franchement, c'était le choix naturel. Moi, je le connais bien, Laurent. On travaille ensemble depuis 2 ans et demi. Il vient de la société civile. Il a une expérience en ressources humaines dans un grand groupe français.
Donc,
il
connaît. Le groupe Auchan, je crois.
Le groupe Auchan. Il connaissait bien les relations sociales déjà avant d'entrer en politique. Il a été rapporteur des ordonnances travail. Il a beaucoup travaillé sur les retraites depuis 2 ans avec Jean-Paul Delevoye, avec les parlementaires, partout en France. C'est un élu du Nord qui connaît bien aussi les territoires. Franchement, c'est un excellent choix. Je pense qu'il va faire du très bon boulot. Ça tombe bien, il va en avoir un peu.
Ouais. Beaucoup de responsables syndicaux ont salué les qualités humaines, les qualités de dialogue de Jean-Paul Delevoye. Est-ce que Laurent Pietraszewski a les mêmes?
Les mêmes, évidemment, personne n'est totalement remplaçable, avec notamment les qualités que vous avez mentionnées, que les leaders syndicaux mentionnaient, de Jean-Paul Delevoye, qui était aussi un peu notre parrain à tous, puisqu'il présidait la commission d'investiture de La République En Marche, et donc on le connaît tous, et on avait tous une relation assez particulière avec lui. Laurent, c'est un autre style, mais je pense qu'il a en commun avec Jean-Paul Delevoye des qualités humaines réelles, de l'écoute, une capacité d'empathie, il se met à la place des autres, et ça c'est très important, et ça manque parfois un peu dans nos sphères, et donc non, moi je pense qu'il va succéder à Jean-Paul Delevoye, et je pense qu'il va faire du bon boulot.
Alors le baptême du feu va être très rapide, puisque nommé quasiment dans la nuit, il sera dès aujourd'hui aux côtés du Premier ministre pour recevoir individuellement les dirigeants syndicaux, puis demain pour une rencontre collective. Donc les choses vont se jouer largement dans les 2 prochains jours. Est-ce que le conflit peut se résoudre dans les prochaines 48 heures?
Mais je pense qu'il y a 2 choses. Il y a à court terme, est-ce qu'on peut, dans le cadre des négociations qui vont avoir lieu aujourd'hui de manière bilatérale et puis demain de manière collective, montrer suffisamment de rapprochement pour avoir une trêve de Noël qui est méritée par tout le monde. Je pense que les Françaises et les Français, et pas seulement les Franciliens, mais notamment les Franciliens, j'en ai croisé quelques-uns ce matin en venant ici, sont dans la galère, et je pense qu'il serait temps que cette galère s'interrompe. Et puis, par ailleurs, on sait bien que la négociation sur les retraites va se poursuivre à la rentrée sur la base d'un projet de loi. Il y a plein de détails à discuter.
Donc ce que vous dites là, c'est ce qui va se discuter peut-être aujourd'hui et demain, plus que le fond de la réforme, c'est négocier une trêve?
Non, moi je pense qu'une trêve ne se négocie pas. Hein. Le droit de grève est à la fois individuel et constitutionnel. Ce seront les grévistes qui décideront ou non de faire la trêve. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse montrer les uns les autres, qu'on est prêt à négocier les uns avec les autres, qu'on n'est pas ni dans un dialogue de sourds, et je pense que le gouvernement a montré que c'était pas le cas, ni dans un chantage. C'est pas nous ou le chaos, la grève ou le retrait. Il faut qu'on trouve des manières d'avancer ensemble. La négociation, c'est une capacité à faire des compromis. Je pense que le gouvernement est prêt à en faire. Il faut que tout le monde en fasse un peu, sachant que de toute façon, ce débat va être long. Il va se poursuivre à la rentrée sur tous les détails de cette réforme, sur laquelle je tiens quand même à insister. On est tous, vraiment, au sein de la majorité du groupe, totalement convaincu que c'est une bonne réforme. Le système actuel est totalement inéquitable, une usine à gaz incompréhensible. La réforme de retraite qui fait que tout le monde aura le même système de retraite une fois que les transitions ont été remises en place, c'est une bonne réforme qui est adaptée au 21e siècle. Il faut être conscient que le marché du travail a violemment changé.
Alors, c'est une bonne réforme, mais qui peut être améliorée. C'est ce qu'on entend beaucoup ces derniers jours, y compris dans la bouche du Premier ministre, notamment peut-être sur la pénibilité ou encore sur ce fameux âge d'équilibre qui a beaucoup crispé à la CFDT. Dans ces conditions, on pourrait se demander pourquoi ne pas présenter d'emblée la meilleure version du texte, celle avec ce qui va peut-être y être ajouté. Est-ce que ça n'est pas parce que on essaye de faire la réforme à l'économie et puis on lâche petit à petit sous la pression?
Non, je pense pas. Franchement, je pense que c'est une réforme complexe d'abord, dans laquelle il y a énormément de paramètres et dans laquelle parfois les intérêts des uns et des autres, y compris d'ailleurs au sein des syndicats peuvent diverger. Donc je pense que la conversation autour de paramètres comme ceux que vous avez mentionnés va permettre de progresser. On a le grand cadre de la réforme qui lui est bien fixé, hein. L'idée c'est d'avoir un régime universel, unique pour tout le monde, qui va concerner des jeunes qui, on le sait, vont avoir des carrières très différentes de ceux qu'avaient nos parents et de celles que même nous avons eues. Donc ça reste. Ensuite, il y a énormément de choses à négocier. Et j'allais dire, tant mieux. Je veux dire, le travail parlementaire va commencer à partir de la fin janvier, puisque le projet de loi sera déposé le 22 janvier. Les négociations avec les partenaires sociaux vont se poursuivre. On est rentré dans une phase, je dirais, plus traditionnelle. Je veux bien reconnaître que jusqu'à présent, je dirais jusqu'à mercredi dernier, on était dans un exercice un peu nouveau. Certains nous l'ont reproché. Moi, je suis heureux qu'on ait pu le faire, qui était un exercice de concertation, je dirais un peu à l'aveugle, sans texte. Il y avait les principes de la réforme, mais on n'avait pas le texte. Je pense que si on avait déposé un texte dès le mois de septembre en disant « c'est ça, maintenant on va négocier les détails », on nous l'aurait reproché également. Ouais. Moi, je préfère qu'on ait pris le temps.
Mais sur la stratégie, tout de même, lorsque le Premier ministre annonce la semaine dernière qu'il y aura un âge d'équilibre à 64 ans, quand il le fait, il sait pertinemment que Laurent Berger de la CFDT n'en veut pas. Pourtant, il choisit de le faire et de l'annoncer. À quoi correspond cette stratégie? Pour dire ensuite, dès le lendemain, oui, mais enfin, c'est négociable.
Moi, je l'ai écouté, hein, le Premier ministre. Il a dit deux choses. Il a dit, je souhaite que les partenaires sociaux puissent négocier la meilleure manière d'arriver à l'équilibre, non pas en 2025, mais en 2027. Donc déjà, 2 ans de plus donnés, pour rien à la négociation. Et deux, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, voilà ce que moi je vais proposer. Proposer, parce que c'est ça, dans un projet de loi qui devrait être voté. Donc il y avait de l'ouverture dès le départ. Ça a été perçu un peu comme une ligne rouge. Et d'une certaine manière, la perception, c'est la réalité. Si Laurent Berger l'a pris comme une ligne rouge, il faut peut-être l'intégrer dans notre...
Vous l'avez entendu.
Non, exactement. Donc moi, je suis prêt à entendre ça et à dire peut-être que c'est une technique différente de négociation qui va nous amener à l'équilibre. Mais je pense que Laurent Berger, il l'a dit aussi d'ailleurs hier dans une interview, je pense au journal La Croix, l'équilibre n'est pas un tabou. Je veux dire, on est dans un système aujourd'hui où ce sont ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui sont à la retraite. Ben, il ne faut pas que ce soit en déficit, parce que si vous le faites en déficit, ça veut dire que nos enfants vont à la fois payer nos retraites, mais celles de leurs grands-parents, parce qu'ils devront rembourser les dettes que nous, on aura contractées. C'est la responsabilité d'une génération que de payer les retraites de la génération d'avant.
Si dans les prochains jours, le gouvernement cède, par exemple, sur ce fameux âge d'équilibre, fait des avancées, propose des avancées sur la pénibilité, et que donc la CFDT s'estime satisfaite du projet de réforme, ça n'aura pas réglé le conflit, parce que la CFDT n'est pas du tout en première ligne dans la contestation. Comment voyez-vous les choses se passer pour ce qui est des blocages, des perturbations dans les transports, avec la grève conduite très largement par la CGT?
Très rapidement, vous avez mentionné le terme de céder. Moi, je pense pas qu'on est dans un combat dans lequel il faut céder du terrain, avancer, etc. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une négociation dans laquelle il y aura sans doute, j'espère, du gagnant-gagnant, mais au moins du donnant-donnant. Vous avez parlé de la CFDT, on a aussi les autonomes, on a aussi la CFTC. Il y a d'autres syndicats qui sont dans une logique où ils soutiennent la réforme, mais sont opposés à l'âge pivot. Donc on se retrouvera, si on arrive à avancer, je le souhaite, avec un front syndical en fait assez divisé. On aura sans doute la CGT encore assez ancrée, on verra quand même, hein. Qui sait, ils feront peut-être preuve d'ouverture. Il faut pas oublier que en parallèle à la négociation nationale, on a aujourd'hui une négociation au sein de la SNCF, une négociation au sein de la RATP, qui elles aussi vont suivre leur bonhomme de chemin. Donc moi j'espère qu'on va avancer en haut et en bas, et qu'on va pouvoir sortir de cette grève, définitivement, évidemment, c'est mon espoir le plus grand, et au minimum, temporairement, pendant les fêtes, je pense que tout le monde l'a bien mérité.
Je voudrais évoquer quelque chose d'un peu plus personnel, Roland Lescure. Votre mère a fait toute sa carrière à la RATP, elle était militante syndicale CGT, donc elle est à la retraite depuis longtemps maintenant. Comment vous parle-t-elle de cette réforme des retraites?
Bon, d'abord, c'est ma mère, donc on a évidemment des discussions mère-fils, toujours chaleureuses et très sympathiques.
Et puis une mère pardonne tout à son fils.
Oui, c'est ça, je sais pas si j'ai des choses à me faire pardonner, mais en tout cas, elle me regarde peut-être avec des yeux différents que, je dirais, Jean-Claude Martinez, si on devait avoir ce débat aujourd'hui. Cela dit, donc évidemment, elle est très attachée à son système de retraite, mais elle reconnaît bien que la carrière qu'elle a eue, très linéaire, dans une entreprise pendant à l'époque 37 ans et demi. C'est pas la carrière qu'auront ses petits-enfants et qu'il faut adapter le système aux carrières qu'auront ses petits-enfants. Donc on a des discussions autour de ça. Je l'ai vite rassurée parce que comme beaucoup de retraités, elle avait l'impression qu'elle allait être concernée. Ce n'est pas le cas, maman, tu n'es pas concernée. Et puis pour les jeunes, on essaye de construire un système bien meilleur.
Merci Roland Lescure. Bonne journée.